Radio France Internationale. 13h à Paris, il est midi en temps universel.
RFI Midi.
L'heure du grand journal international avec vous, Juliette Pietraszewski. Bonjour Juliette.
Bonjour Nemo, bonjour à tous. À la une de ce journal, le Premier ministre français à Mayotte, soit 15 jours après le passage du cyclone Chido qui a fait 39 morts et des dégâts matériels importants, notamment dans les écoles. L'inquiétude des professeurs est palpable, vous l'entendrez. Aux États-Unis, l'ancien président américain Jimmy Carter est décédé ce dimanche. Les réactions internationales sont nombreuses. On s'intéressera à Israël où les réactions sont mitigées dans les médias. Jimmy Carter était devenu l'un des critiques les plus virulents de la politique israélienne. À suivre aussi en Corée du Sud, drapeau en berne et deuil national après un crash d'avion qui a fait 179 morts hier. On reviendra sur cette tragédie. Et puis en Géorgie, les manifestations continuent après l'investiture hier du nouveau président pro-russe Mireï Kavelashvili.
Le Premier ministre français François Bayrou poursuit donc sa visite à Mayotte cet après-midi.
Il est arrivé ce lundi matin dans l'archipel dévasté par le passage du cyclone Chido. C'était il y a 15 jours. Le Premier ministre n'est pas seul sur place. Les ministres des Outre-mer, de la Santé, de l'Éducation nationale, du Logement et de la Francophonie sont également dans le territoire jusqu'à ce soir. Et en fin de journée, justement, François Bayrou détaillera le plan appelé Mayotte debout, qui promet de dessiner les contours des actions à venir pour l'archipel.
Et Juliette, retour sur ce qui s'est passé dans la matinée. Le Premier ministre a précisé les modalités de la rentrée.
Oui, une rentrée prévue le 13 janvier pour les professeurs, le 20 pour les élèves, soit une semaine de décalage par rapport à la fin des vacances scolaires. En cause, Nemo, les dégâts matériels du cyclone. Les ministres se sont rendus au collège de Kaweni 2 à Mamoudzou, où l'inquiétude des professeurs s'est fait sentir. Le reportage de Lola Fourmi.
Sous le préau de la cour, François Bayrou et le recteur de Mayotte observent le toit en partie affaissé lors du cyclone.
C'était des bardeaux de bois, mais l'étanchéité est assurée par les tôles d'acacier au-dessous.
Ouais. Des dégâts certes importants à cause de la catastrophe naturelle, mais aussi à cause des pillages qui ont succédé. Les ministres sont interpellés par ce professeur d'EPS sur le manque de sécurisation des lieux.
Le chef d'établissement disait que 90% étaient encore en bon état. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a même pas la moitié parce que tout a été vandalisé. On ne comprend pas pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas venues sur place pour...
Elles sont venues, elles ont fait le maximum.
Je veux dire, elles n'ont pas pu rester pour veiller à ce que l'établissement scolaire reste en bon état.
Il faut qu'on apporte des centaines de forces de l'ordre, c'est ce qu'on va faire.
Les cours reprendront donc le 20, mais avec 3 rotations d'élèves par jour, faute de place. Les enseignants appréhendent cette rentrée. Renaud Mercier, professeur de lettres.
Le pire, c'est probablement l'appel du premier jour, parce que on s'attend à voir des élèves qui ne seraient pas présents. On pourra certainement déplorer des disparus, probablement un grand nombre de départs vers les Comores, dans la mesure où nous avons beaucoup de gamins issus de l'immigration scolarisés ici, qui peut-être sont rentrés dans leur famille de l'autre côté. Donc ce sera très très difficile.
Sans compter une autre difficulté, le manque de matériel. Ici, des milliers d'élèves n'ont plus ni cahier ni stylo. Mayotte, Lola Fourmi, RFI.
RFI, 7h passée de 4 minutes à Washington. L'ancien président américain Jimmy Carter est décédé ce dimanche à l'âge de 100 ans. Et depuis, les réactions internationales continuent de tomber.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a salué un grand médiateur pour la paix au Moyen-Orient. Jimmy Carter a été l'un des artisans et décideurs majeurs de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Xi Jinping se dit aussi profondément attristé par cette disparition. Et du côté d'Israël, les réactions sont mitigées dans les médias. Nous sommes avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Bonjour.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
De médiateur historique, Jimmy Carter est devenu en effet l'un des critiques les plus virulents de la politique israélienne.
Oui, l'approche est bivalente plutôt ici. Considéré en début de mandat comme un grand ami d'Israël, Jimmy Carter était devenu un de ses principaux détracteurs. Il est même l'un des premiers à avoir utilisé le terme d'apartheid pour qualifier la politique israélienne dans les territoires occupés. Jimmy Carter reste cependant avant tout le principal architecte des accords de Camp David en 1979, qui avait pavé la voie au traité de paix israélo-égyptien. C'est avec l'avènement du nouveau millénaire que Jimmy Carter a adopté des positions de plus en plus critiques à l'égard d'Israël. Il a en particulier dénoncé la colonisation israélienne en Cisjordanie, encore plus controversée en Israël, son approche par rapport au Hamas. En 2006, il a estimé qu'il fallait donner une chance à l'organisation classée terroriste aux États-Unis. 3 ans plus tard, il s'est rendu dans l'enclave palestinienne avant d'appeler en 2014 la reconnaissance pure et simple du Hamas. L'ancien président américain a dans le même temps vivement condamné les actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza, accusant notamment son armée de viser délibérément des civils.
Les précisions de Michel Paul en direct de Jérusalem.
La mort de Jimmy Carter, notamment son influence sur le continent américain, on y revient ce midi avec notre invité André Caspi, historien des États-Unis. Rendez-vous dans un peu plus d'une heure. Autre réaction, Juliette, au décès du 39e président américain, celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Il a rendu hommage à l'engagement inébranlable envers la foi chrétienne et les valeurs démocratiques de Jimmy Carter. Volodymyr Zelensky salue aussi son soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'agression injustifiée de la Russie. Fin de citation.
La guerre en Ukraine également au centre des discussions à Damas entre le chef de la diplomatie ukrainienne et le nouveau dirigeant syrien.
Le responsable ukrainien a été reçu aujourd'hui dans la capitale syrienne. Première visite depuis la chute de Bachar el-Assad. L'ancien dirigeant qui était très proche de Moscou et qui a pris la fuite pour se rendre à Moscou également. Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé l'envoi par l'Ukraine à Damas de son premier chargement d'aide alimentaire de 500 tonnes de farine de blé. Même en temps de guerre, l'Ukraine reste en effet un des plus grands producteurs mondiaux de céréales.
Et au-delà de cette rencontre entre l'Ukraine et la Syrie, les nouvelles autorités à Damas s'organisent et ont fait des déclarations ce week-end sur l'avenir du pays.
L'organisation d'élections pourrait prendre jusqu'à 4 ans, annonce d'Ahmed al-Shara, aussi connu sous le nom de Mohamed al-Jolani. Le commandant en chef de l'administration des opérations militaires syriennes s'est exprimé à l'occasion d'une interview accordée à la chaîne saoudienne Al-Arabiya. Le responsable a également déclaré que les forces kurdes seraient intégrées à l'armée syrienne.
On prend la direction de la Corée du Sud dans ce journal où les drapeaux sont en berne ce lundi.
Oui, un avion de la compagnie Jeju Air s'est crashé hier et le bilan fait état de 179 morts. Une inspection d'urgence de toutes les opérations aériennes du pays a été ordonnée par le président intérimaire. Décision qui intervient alors que ce matin encore, un autre Boeing 737-800 de la même compagnie Jeju Air a rencontré un problème lié au train d'atterrissage. Les enquêteurs tentent toujours d'identifier les causes exactes du crash d'hier, qui est le plus mortel de l'histoire de la Corée du Sud. Nicolas Roca est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour Juliette.
Un deuil national de 7 jours a été déclaré et les familles des victimes réclament une identification rapide des corps pour qu'ils puissent être restitués à leurs proches.
Oui, mais le processus est compliqué. L'avion a explosé contre un mur en béton en fin de piste, détruisant les corps et les autorités doivent les reconstituer avant de les rendre aux familles d'ici 10 jours. Un délai trop long pour Park Han-shin qui a perdu son frère. Ému aux larmes, il a porté la voix des proches endeuillés devant les caméras des agences de presse ce lundi.
Ils disent que les corps sont tellement endommagés qu'il faudra beaucoup de temps pour les restituer. Je pense que ce que nous devons exiger du gouvernement, c'est qu'il engage plus de personnel pour pouvoir restituer le corps de mon frère et celui de toutes les victimes plus rapidement, même s'ils sont intacts seulement à 80%.
Park Han-shin espère aussi voir Jeju Air faire des efforts supplémentaires pour les proches des victimes.
La seule manière pour que les familles endeuillées aient l'impression que la compagnie aérienne a fait tout son possible pour aider les familles, c'est avec une aide financière. Pourquoi ? Parce que des chefs de famille sont morts, des parents sont morts, il ne reste que les enfants. Et comment peuvent-ils vivre tout seuls ? Ni les fonctionnaires de la province, ni le gouvernement ne peuvent aider à résoudre ce problème.
Le désespoir des familles se dirige vers la compagnie aérienne. Des images sur les réseaux sociaux montrent des proches des victimes hurler sur le dirigeant de Jeju Air.
Les précisions de Nicolas Roca.
Et autre crash d'avion qui a fait parler de lui, c'était un peu plus tôt la semaine dernière, l'avion de l'Azerbaïdjan Airlines qui s'est écrasé mercredi au Kazakhstan.
Alors que ce week-end, le président russe a formulé des excuses sans pour autant dire clairement si l'avion avait été touché par un missile russe, le président azerbaïdjanais a lui réfuté la version de la Russie sur ce crash. Pour Ilham Aliyev, l'avion qui s'est écrasé au Kazakhstan avait subi des tirs en provenance du territoire russe. Il accuse Moscou d'avoir voulu cacher les causes de cette tragédie et lui réclame des aveux, mais aussi des indemnisations. Un discours musclé à l'égard de Vladimir Poutine, dont l'image a pris un coup dans cette affaire. Selon Charles Ourievitch, professeur émérite d'histoire de la Russie et du Caucase à l'Institut national des langues orientales.
On est en pleine communication. Il s'agit pour Aliyev de montrer à son peuple qu'il est fier, qu'il est droit et qu'il est capable de s'adresser de manière directe, voire rude, à Moscou. Je pense que c'est un point tout à fait important. La Russie n'est pas particulièrement Poutine en particulier populaire en Azerbaïdjan, vous l'imaginez. Et comment dire, il est clair qu'en prenant cette position, en étant aussi ferme, parce qu'effectivement il est très ferme, et dit les choses telles qu'elles doivent être dites, Aliyev s'inscrit dans une posture patriotique qu'il cultive depuis déjà un certain temps et qui a été concrétisée par la victoire de l'Azerbaïdjan au Karabakh. Et Aliyev va peut-être aussi tenter de prendre un peu plus de champ à l'égard de Moscou, à la différence de l'Arménie ou même de la Géorgie, il en a les moyens.
Des propos recueillis par Harim Lippold.
RFI, 16h11 à Tbilissi, c'est désormais officiel depuis un peu plus de 24 heures maintenant. La Géorgie a un nouveau président.
Oui, un nouveau président très contesté, Mireille Kavelashvili, investi au Parlement hier. C'est un ancien footballeur et un politique d'extrême droite. De son côté, l'ex-présidente est en résistance. Si Salomé Zourabichvili a finalement quitté le palais présidentiel hier, deux nouvelles manifestations ont eu lieu hier soir pour dénoncer le virage autoritaire du pouvoir. Et elles vont continuer malgré les nouvelles lois répressives décidées par le gouvernement. À Tbilissi, notre envoyé spécial, Julien Chavanne.
Coller une affiche, plus de 300 euros d'amende. Utiliser un laser, près de 700 euros, presque deux fois le salaire moyen ici. À peine installé dans son nouveau fauteuil, Mireille Kavelashvili a voulu promulguer en priorité ses premières lois répressives. Les pouvoirs de la police pour les arrestations et les gardes à vue sont étendus. Les licenciements de fonctionnaires facilités. Pour l'opposition, la liberté d'expression est désormais en danger en Géorgie. Mais devant le Parlement, ces menaces ne semblent pas pour l'instant freiner la mobilisation, à l'image de cette jeune manifestante.
Ils veulent nous faire peur, bien sûr. Mais ça ne marche pas, on n'a pas peur. Et on va continuer parce qu'on sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous aider.
Si la police et l'appareil judiciaire sont aux mains du parti rêve géorgien, l'armée garde ses distances avec le pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire du pays, il n'y a pas eu de parade militaire pour l'investiture du nouveau président. Julien Chavanne, Irma Inaridze, Tbilissi, RFI.
Volet économie dans ce journal. C'est à partir d'aujourd'hui, lundi 30 décembre, que le règlement sur les marchés de crypto-actifs entre progressivement en vigueur.
Un règlement à l'échelle du continent européen qui met en place une supervision des crypto-monnaies. Agnieszka Kumor, bonjour.
Bonjour.
C'est un marché en pleine ébullition, outre-Atlantique, depuis l'élection de Donald Trump.
Et oui, si l'engouement des investisseurs pour les actifs numériques est fort, le marché des crypto-monnaies, lui, est largement non régulé. Et donc, non sans risque pour les consommateurs et pour la stabilité du système financier. Des risques qui n'ont fait que grandir avec l'explosion des cours du Bitcoin. Le nouveau règlement européen porte un nom, MiCA, pour Markets in Crypto Assets. Sa mission, protéger les investisseurs et lutter contre le blanchiment d'argent. Ainsi, l'entreprise qui souhaiterait fournir ses services en matière des crypto-actifs sur le marché européen devra demander une licence auprès d'un régulateur des marchés financiers. Le but, c'est de rapprocher le secteur des crypto-monnaies des standards en vigueur dans le secteur bancaire et financier traditionnel grâce à plus de transparence et une traçabilité renforcée. Si la France a pris quelques longueurs d'avance grâce à la loi Pacte votée en 2019, d'autres États membres sont en retard. La mise en place de MiCA devrait ainsi permettre d'harmoniser les pratiques au niveau européen tout en rassurant les marchés.
Les précisions d'Agnieszka Kumor, merci beaucoup. Et direction les salles obscures pour terminer ce journal. Si vous aimez le cinéma, Nemo, c'est pour vous.
Oh oui.
2024 est une année rayonnante pour le cinéma français. Trois des cinq premiers films sont des productions nationales. Les détails de ce bilan avec Constantin Jallot.
10 ans que cela n'était pas arrivé. La première place du box-office en France cette année revient à un film français. La comédie, un petit truc en plus, a attiré près de 11 millions de spectateurs. C'est le 9e meilleur score de l'histoire du cinéma français.
Tu n'es pas handicapé ?
Si, tu veux pas handicapé ?
Ça ne voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé.
Réalisé par le comédien Artus, cette histoire de colonie de vacances aborde avec humour et sensibilité le thème du handicap. Le film, pourtant, ne pariait pas sur un gros budget avec 6 millions d'euros seulement. Nous sommes loin des 43 millions consacrés au grand film d'aventure, Le Comte de Monte Cristo.
Vous n'avez donc aucune pitié.
Et eux, un antilu pour Edmond Dantès.
Deuxième du box-office français, l'adaptation de 3 heures du célèbre roman d'Alexandre Dumas, et dont Pierre Ninet interprète le premier rôle, totalise 9 400 000 entrées. Les 3e et 4e places du box-office sont des suites américaines, Vice Versa 2 et Vaiana 2. Enfin, la romance dramatique L'amour ouf occupe la 5e place du box-office. L'histoire d'amour contrarié entre un fils d'ouvrier et une fille de famille bourgeoise, portée par le charismatique duo de François Civil et Adèle Exarchopoulos. Une réussite due notamment au jeune public que le film a su trouver.
Le bilan cinéma de Constantin Jalot.
Et c'était le journal de Juliette Pietraszewski. Merci Juliette et à tout à l'heure. RFI 13h15 ici à Paris. On passe au journal des sports. Bonjour Baptiste Leduc.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Et du football pour commencer, les derniers matchs de l'année en Première Ligue se jouent ce lundi avec Manchester United qui aimerait bien finir 2024 fort devant son public.
Les Red Devils restent sur 2 défaites en championnat sans marquer le moindre but, hormis une victoire contre le rival tourmenté Manchester City. L'arrivée de l'entraîneur portugais Ruben Amorim rime plutôt avec morosité depuis un mois. Il a du mal à faire pénétrer ses idées.
Je ne sais pas combien de temps cela prendra. On doit progresser, utiliser chaque minute d'entraînement et grappiller des points. L'équipe est en train de complètement changer sa façon de jouer. C'est difficile pour les joueurs, mais pour le staff aussi qui doit donner des informations. Et quand les résultats ne suivent pas, c'est encore plus dur de croire en ce qu'on fait. On savait que ce serait difficile. On doit juste se concentrer sur le prochain match.
Le prochain match, c'est à 20h, temps universel, Manchester United-Newcastle. À suivre aussi ce lundi Ipswich, Chelsea et Aston Villa Brighton. Et puis toujours en football, cette information qui vient d'Italie, l'AC Milan se sépare de son entraîneur Paolo Fonseca. Décidément, Nemo, il ne fait pas bon être coach portugais ces temps-ci.
Et avant de dire adieu à 2024, vous en avez pris l'habitude. RFI revient sur les grands moments de sport de l'année. Aujourd'hui, Baptiste, dans la rétro sportive. C'est le tournoi olympique de basket.
Et voilà qui va rappeler de mauvais souvenirs aux supporters français. C'était le 10 août, finale du tournoi masculin des JO, les Bleus du basket face à Team USA. Le match est serré, mais un homme va tout faire basculer en enchaînant les tirs à 3 points. Stephen Curry, bourreau des Bleus, Victor Messistrano nous raconte.
Lorsqu'on lui demande quel mot en français il a appris lors de son passage à Paris, Stephen Curry renvoie à sa fameuse célébration les mains jointes collées à la joue pour dire aux Français dont il brise le rêve olympique « Game over, il est l'heure de dormir ». Sur un nuage, le meneur américain vient de tuer le match à lui tout seul, un 4e tir à 3 points consécutifs à 36 secondes de la fin, malgré 2 Français sur le dos. Ses coéquipiers LeBron James et Kevin Durant sont tout seuls, mais Curry préfère prendre ce shoot plein de culot en déséquilibre.
Je les vois tous les deux, mais je suis déjà en rythme et tant que je lâche le ballon, je sais que je peux marquer. Au moment où j'arme, je les vois lever les mains, ils ne s'attendaient pas à ce que je tire.
Ça fait beaucoup d'années que je joue contre lui.
Habituel adversaire en NBA, le pivot Joel Embiid sait qu'il doit en grande partie cette médaille d'or au meilleur shooter à 3 points de l'histoire qui avait déjà sauvé les États-Unis en demi face à la Serbie.
Ça fait plaisir d'être dans la même équipe à lui en demi-finale. Et puis en finale, ce genre de shoot qu'il a mis, c'est pour ça qu'on a gagné.
C'est une très belle façon de terminer ce tournoi pour moi, c'est sûr. Mais on n'aurait pas réussi sans les 12 joueurs. Je m'en souviendrai pour toujours.
Stephen Curry aura attendu d'avoir 36 ans pour le disputer, mais il a écrit l'une des pages les plus mémorables du tournoi olympique de basket.
36 ans pour Stephen Curry et 40 pour LeBron James. C'est l'anniversaire du King aujourd'hui.
On lui souhaite un joyeux anniversaire à LeBron James et peut-être encore quelques saisons.
Peut-être.
Pas quelques titres. Merci Baptiste Leduc pour le journal des sports.
RFI. Le Monde à midi.
C'est la première fois qu'il s'exprimait sur un éventuel calendrier électoral en Syrie. 3 semaines après la chute du régime de Bachar al-Assad, le nouvel homme fort du pays a accordé un entretien à la chaîne saoudienne Al Arabiya. Pour parler de ses déclarations, nous recevons ce midi Thomas Pierret. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Amou Mohamed Al-Joulani a donc assuré que l'organisation d'élections pourrait prendre 4 ans, 2 ou 3 ans pour réécrire la Constitution. Un laps de temps aussi important est-il justifiable selon vous?
Ça paraît effectivement très long. C'est-à-dire que dans les arguments d'Ahmed Echarey, il y en a certains qui sont recevables dans une certaine mesure, hein, notamment l'idée qu'avant d'organiser des élections, il faudrait organiser un recensement de la population, ce qui paraît logique de savoir quelle est la taille des circonscriptions électorales et qu'il y a eu d'énormes déplacements de population en Syrie à l'intérieur du territoire et vers l'étranger depuis 15 ans qui font que les recensements des années 2000 sont totalement dépassés. Ceci dit, de là à proposer un délai qui irait jusqu'à 4 ans paraît effectivement extrêmement long et suggère qu'il s'agit quand même surtout de donner le temps à Al-Shara et à ses proches de modeler l'État syrien à leur image.
Trois semaines au pouvoir, trois semaines au cours desquelles les nouvelles autorités ont tenté de rassurer la communauté internationale. Et hier, cet homme fort de Syrie s'est adressé aux deux alliés de Bachar al-Assad, l'Iran et la Russie. Concernant Téhéran, il assure que son pays ne peut pas continuer sans relation avec un pays comme l'Iran, mais insiste sur le fait que cela se fasse sur la base du respect de la souveraineté et surtout sans ingérence. Quel message Damas tente-t-elle de faire passer ici ?
Je pense effectivement, une fois que les troupes iraniennes et puis leurs différents affidés ont quitté le territoire syrien au moment de la chute d'Assad, il n'y a plus réellement de contentieux objectif entre la Syrie et l'Iran. Alors il y a évidemment beaucoup de mauvais souvenirs et qui seront longs à cicatriser, mais objectivement plus réellement de contentieux entre les pays, hormis peut-être la question de la dette que l'Iran réclame au nouveau pouvoir syrien, mais dont je pense qu'il ne verra jamais la couleur. Donc il paraît assez logique finalement que le nouveau pouvoir syrien propose de remettre les compteurs à zéro, même si je pense que du côté iranien, en tout cas les signaux qui viennent d'Iran pour l'instant ne vont pas du tout dans ce sens-là, et on est plutôt, au moins temporairement, dans une espèce de surenchère hostile au nouveau pouvoir syrien, qui me paraît surtout destiné à couvrir l'énorme échec de politique étrangère auquel a été confronté l'Iran avec la chute d'Assad.
Thomas Pierret, Abou Mohamed Al-Joulani, qui a également parlé de la Russie comme un pays important, parlant notamment d'intérêts stratégiques profonds. Même question, quel message de Damas pour Moscou ?
Alors là, la situation est différente, puisque la Russie conserve pour l'instant une présence militaire en Syrie, assez limitée, hein, de base, une aérienne, une navale. Il me paraît logique que le nouveau pouvoir syrien ne se dépêche pas de pousser les Russes dehors, tout simplement parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi sur le territoire syrien des troupes américaines, dont le pouvoir syrien souhaite sans doute le départ, mais qu'il ne peut, il peut pas le demander trop fort ou engager une confrontation militaire avec les États-Unis qui serait suicidaire. Et il paraît logique de garder deux fers au feu et donc de garder pour l'instant sur le territoire syrien une espèce de contrepoids militaire et diplomatique à cette présence américaine qui pourrait devenir gênante par la suite.
Autre information dévoilée ce matin, en tout cas selon des experts, notamment de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, d'anciens rebelles ont été promus à des grades d'officier au sein de la future armée syrienne, et notamment au moins 6 djihadistes étrangers. Ce serait un mauvais signal envoyé à la communauté internationale à l'heure où Damas tente de faire lever les sanctions internationales.
Oui et non, ça dépend de la manière dont on le regarde. Ça peut être évidemment une source d'inquiétude. Ça peut être aussi une manière de dire à ces pays, je pense à la Chine par exemple, puisqu'il y aurait par exemple un commandant ouïghour, donc ressortissant chinois légalement. Une fois que de tels personnages se voient confier des responsabilités importantes dans une armée nationale, je dirais qu'ils devront sans doute laisser de côté l'agenda politique qu'ils pouvaient avoir pour leur pays d'origine. Ils vont devoir, je pense, se plier à la raison d'État syrienne. Je pense, par exemple, dans le cas de la Chine, je pense qu'il sera dans l'intérêt du nouveau pouvoir syrien d'avoir de bonnes relations avec la Chine pour des raisons diplomatiques et économiques. Et il devra par conséquent exercer des pressions très fortes sur ses alliés hein, d'origine chinoise pour abandonner toute velléité d'opérations terroristes, par exemple, contre la Chine.
Merci Thomas Pierret. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Cet entretien sera évidemment à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes et notamment l'application RFI Pure Radio. RFI 13h25 ici à Paris. Dans un peu plus de 5 minutes, le retour de l'actualité africaine. Avant cela, notre reportage du jour. Il y a un peu moins d'une semaine, le pape François a proclamé le jubilé 2025 avec l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome. Là-bas, des centaines de chantiers ont été lancés depuis 2 ans, plus de 4 milliards d'euros de financement à l'appui. Objectif, restituer son prestige à la ville éternelle et la rendre plus durable. Sauf que les habitants sont pour la plupart exaspérés par les travaux qui perturbent leur quotidien. Et surtout, ils redoutent l'arrivée de hordes de pèlerins alors que 32 millions de fidèles sont attendus dans cette capitale qui souffre déjà du surtourisme. Reportage à Rome, signé Anne Lenir.
La ville éternelle, aussi chaotique que la scène du grand embouteillage dans le film Rome de Federico Fellini, sorti en 1972, c'est l'impression qui se dégage des deux côtés du Tibre. La directrice de la surintendance spéciale de Rome, Daniela Porro, rappelle que qui dit jubilé, depuis le premier lancé en 1300 par le pape Boniface VIII, dit grands travaux.
La ville de Rome est aussi le reflet de toutes les opérations de rénovation et de modernisation réalisées à l'occasion des années saintes.
Mais sur les 205 chantiers prioritaires, seuls 64 sont achevés. Parmi ces derniers, la réfection de stations de métro ou encore la restauration de monuments. Antonella, avocate qui vit près du Panthéon, a un regard courroucé.
Aux difficultés de gestion des transports en commun s'ajoutent tant de travaux qui créent des désagréments. Et puis il y a les problèmes récurrents à Rome comme la saleté. Tout un tas d'activités de restauration rapide ont été ouvertes, mais il n'existe aucun espace adapté à la consommation.
Romain d'adoption, le Britannique James, songe à prendre la poudre d'escampette.
Tout est complicatissime.
Tout devient très compliqué, même l'accès aux toilettes publiques. Vous comprenez ? Moi, je pense m'échapper à la campagne.
Campagne.
Pour Alessandra, vaillante octogénaire, sillonner à pied le cœur de Rome est un parcours du combattant.
J'ai accroché à ma canne une sonnette de vélo pour demander l'autorisation de passer. Parce qu'il n'y a pas de place pour marcher. Il y a trop de touristes.
Quant à Attilio, enseignant rencontré sur la Piazza Navona, libéré des échafaudages, il déplore les rénovations tape à l'œil.
Tout a été concentré sur le maquillage du centre-ville. Je suis choqué par la fontaine des quatre fleuves du Bernin restauré. Elle est d'une blancheur immaculée. Mais à mes yeux, ces types de fontaines doivent avoir une patine pour préserver le sens de l'histoire.
Les Romains sont donc loin de jubiler, d'autant que dans les zones touristiques, les prix montent en flèche. Celui du traditionnel espresso au bar atteint jusqu'à 4 euros contre 1,50 euro en moyenne. Anne Lenir, Rome, RFI.
Reportage à retrouver sur RFI.fr. RFI 13h28 ici à Paris, vous restez avec nous. Dans un instant, le retour de l'actualité africaine. Avant cela, on s'écoute Vertige de Malik Djoudi.
Thank you.
RFI, la sélection du mois.
Depuis qu'on n'est plus des sœurs,
Youa.
Je l'avouerai à contre-cœur. La vie me fait presque un peu peur et j'imagine toujours le pire.
Oh.